VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 13 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En République démocratique du Congo, l'opposition suspend sa participation aux travaux en commission du dialogue national.
Libye, Washington et ses alliés condamnent la prise de contrôle de 3 terminaux pétroliers par des forces rivales du gouvernement d'Union nationale.
Soudan du Sud, l'élite politique et militaire est accusée par l'acteur George Clooney de s'être enrichi durant la guerre civile.
En Syrie, les armes se sont tues hier avec l'entrée en vigueur de la trêve. Israël frappe des positions syriennes après la chute d'un projectile sur le Golan.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine et bien sûr notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Dialogue politique en RDC, l'opposition suspend donc sa participation aux travaux en commission. Dans sa déclaration lundi à Kinshasa, le co-modérateur Vital Kamerhe a annoncé que sa délégation ne reviendra au dialogue que si la priorité est donnée à la présidentielle, comme le veut la résolution 2277 de l'ONU. En réaction, la majorité présidentielle a accusé l'opposition de faire monter les enchères. Selon le sénateur Chez Okitundu, chef de la délégation du camp présidentiel au dialogue, sa famille politique maintient sa position, à savoir commencer par les élections locales pour terminer par la présidentielle. On l'écoute.
Notre pays a opté pour le régionalisme constitutionnel et par conséquent, la décentralisation a été inscrite dans la Constitution et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a dernièrement étendu l'extension de cette décentralisation. On est aujourd'hui à 25 provinces et la ville de Kinshasa. Alors, ces provinces ne doivent pas continuer à fonctionner sous forme de nomination des gouvernants. Il faudrait que les élections aient lieu. C'est pour ça que nous accordons une grande importance aux élections locales. Et en partant aussi de l'idée que toutes les élections se valent. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'élection présidentielle est plus importante que l'élection locale dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, c'est la position de la majorité. Mais maintenant, pour l'opposition, l'opposition estime qu'il faut commencer par les présidentielles et c'est le point d'achoppement avec l'opposition. Je n'ai pas particulièrement participé à la commission électorale, mais on a appris qu'ils ont suspendu leur participation. Mais je crois qu'à mon avis, c'est une tactique de négociation.
Le sénateur Chez Okitundu, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au Zimbabwe, l'opposition a appelé à des manifestations samedi dans tout le pays. Elle veut obtenir des réformes électorales. Eric Manirakiza.
L'opposition a décidé de retourner dans la rue en dépit de nouvelles menaces du président Robert Mugabe de réprimer la Fronde populaire. Nous y allons avec ou sans la bénédiction ou la permission des autorités, a déclaré Douglas Mwanzara, porte-parole du mouvement pour le changement démocratique. Cette fronde est confortée par la décision de justice la semaine dernière de lever l'interdiction de manifester à Harare, décrétée pour 2 semaines par la police. Depuis plusieurs semaines, les rues de Harare sont le théâtre d'une nouvelle vague de contestations contre le régime Mugabe, largement nourrie par la crise économique qui frappe le pays. Ce week-end, Robert Mugabe a laissé entendre qu'il ne va plus tolérer aucune manifestation. L'opposition joue un jeu dangereux en menant une guerre qui ne va pas gagner, a prévenu M. Mugabe.
Libye, les États-Unis et 5 de leurs principaux alliés en Europe ont condamné ensemble lundi la prise de contrôle d'un 3e terminal pétrolier par des autorités rivales du gouvernement reconnu par l'ONU, basé dans l'est du pays. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un communiqué commun, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne ont condamné les attaques de ce week-end contre les terminaux pétroliers de Zouétinara, Slanouf, Al-Sedra et Brega. Ils ont appelé au retrait immédiat et sans condition de toutes les forces armées qui se trouvent dans le croissant pétrolier en Libye. Washington et ses alliés européens insistent sur le fait que le pétrole appartient au peuple libyen et doit par conséquent être administré par le gouvernement d'Union nationale, soutenu par l'ONU, basé à Tripoli. Le général Khalifa Haftar, chef de l'armée lié au gouvernement non reconnu, basé dans la ville d'Al-Baïda dans l'Est, est à la tête de cette offensive, la première depuis l'installation du gouvernement d'Union nationale à Tripoli en mars. La prise de contrôle de la principale source d'exploitation de la Libye a réveillé les craintes d'une scission du pays ou d'une guerre civile.
Soudan du Sud, l'élite politique et militaire, en premier lieu le président Salva Kiir et son ennemi et ancien vice-président Riek Machar, s'est enrichi durant la guerre civile qui ravage depuis 3 ans le pays. C'est ce qu'a annoncé hier la star de Hollywood, George Clooney, dans un rapport d'enquête publié à Washington. Il avait à ses côtés l'acteur africain-américain Don Cheadle et le défenseur des droits de l'homme John Prendergast.
George Clooney est le cofondateur du groupe d'investigation de Sentry qui enquête sur le financement des conflits en Afrique. D'après de Sentry, les familles des élites sud-soudanaises vivent souvent à l'étranger dans des villas de luxe de plusieurs millions de dollars, passent leurs vacances dans des hôtels 5 étoiles et récoltent les bénéfices de ce qui semble être un système de népotisme et de contrats douteux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'aviation israélienne a frappé hier des positions, et plutôt aujourd'hui même, mardi, des positions de l'armée syrienne après la chute d'un projectile venu du territoire syrien sur la partie du plateau du Golan contrôlée par Israël. Selon une porte-parole militaire, la chute de ce projectile n'avait très probablement pas été intentionnelle et était une conséquence du conflit interne en Syrie. Mais l'armée israélienne tient le gouvernement syrien pour responsable de tout tir partant de son territoire, quelle qu'en soit la source.
En Syrie même, la trêve est entrée en vigueur hier, fruit d'un accord américano-russe. Cet accord de cessation des hostilités pourrait, selon le secrétaire d'État américain John Kerry, être la dernière chance pour sauver le pays. Anastasie Tudiech.
Monsieur Kerry a par ailleurs martelé sa confiance en une résolution politique du conflit, la seule réaliste selon lui, exhortant toutes les parties à la soutenir. L'un des volets de ce plan russo-américain est humanitaire. Et si M. Kerry s'est prudemment félicité d'une réduction de la violence depuis l'entrée en vigueur de la trêve, tout en dénonçant des combats ici ou là, il a réclamé que l'assistance humanitaire puisse atteindre les zones de conflit, notamment autour d'Alep, la grande ville symbole divisée et assiégée dans le nord de la Syrie. Si elle tient, cette cessation des hostilités pourra déboucher sur une collaboration militaire inédite entre Moscou et Washington, qui lanceront alors des attaques conjointes contre le groupe État islamique et le front Fateh al-Sham, exclu des négociations.
Les États-Unis ont confirmé hier avoir tué dans un bombardement aérien en Syrie le numéro 2 du groupe djihadiste État islamique, Abu Mohammed al-Adnani, chef de la propagande et aussi recruteur et architecte des opérations extérieures. Washington avait indiqué précédemment l'avoir ciblé dans un bombardement réalisé par un drone américain Predator, mais n'avait pas encore confirmé sa mort.
La justice française a inculpé hier 3 femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat sous l'influence d'un djihadiste français du groupe État islamique, connu pour avoir téléguidé des attaques depuis la zone irako-syrienne, selon les enquêteurs. Les 3 femmes avaient été interpellées par la police jeudi soir dans le sud-est de Paris, à la suite de la découverte, dans le centre de la capitale, d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz. La menace djihadiste ne retombe pas en France, frappée depuis 2015 par une série d'attentats qui ont fait 238 morts. Un adolescent de 15 ans, soupçonné de vouloir passer à l'action avec une arme blanche, a également été présenté au juge et inculpé hier. 2 jours après son arrestation à Paris, il était assigné à résidence depuis avril pour sa radicalisation islamiste.
Présidentielle américaine, la candidate démocrate Hillary Clinton, soignée pour une pneumonie, reprendra la campagne présidentielle cette semaine et Barack Obama interviendra mardi lors d'un meeting de soutien à Madame Clinton à Philadelphie. Elle va devoir prouver aux Américains qu'elle n'a pas perdu la vigueur requise pour battre Donald Trump en novembre et assumer les fonctions de présidente. Pour l'instant, Madame Clinton se repose chez elle à Chappaqua, près de New York, après avoir annulé ses déplacements de lundi et mardi. « Je vais beaucoup mieux », a-t-elle déclaré lundi soir sur CNN.
La mosquée de Floride que fréquentait le tueur de la boîte de nuit gay d'Orlando a été la cible d'un incendie volontaire hier, jour de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. C'est ce qu'ont affirmé les autorités locales, sans écarter l'hypothèse d'un acte anti-musulman. La fusillade perpétrée au nom du groupe État islamique par Omar Mateen le 12 juin au Pulse, dans le sud-est des États-Unis, a fait 49 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le pire attentat commis aux États-Unis depuis ceux du 11 septembre 2001, commémoré dimanche.
Au Brésil, la Chambre basse du Congrès a voté hier l'exclusion de son ancien président Eduardo Cunha, auquel elle a en outre infligé 8 années d'inéligibilité pour ses mensonges sur ses comptes bancaires en Suisse.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Tunis Air va ouvrir cette année 2 nouvelles lignes aériennes reliant le Tchad, le Cameroun et la Guinée. L'une reliera N'Djamena à Douala et l'autre Tunis à Conakry via Dakar. Tunis Air a récemment ouvert une ligne directe vers le Niger et a porté à 5 le nombre de rotations hebdomadaires en Côte d'Ivoire. L'Angola a commandé 17 patrouilleurs militaires à CMN, construction mécanique de Normandie, pour 495 millions d'euros. Le contrat a été attribué à Privinvest Chip Buildings Investments, appartenant au franco-libanais Iskandar Safa, propriétaire de CMN. La holding lancera un chantier naval en Angola avec Simportex, appartenant à l'armée angolaise. À qui profite le franc CFA? C'est le sous-titre d'un nouvel ouvrage intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire » cité par Financial Afrique, un livre écrit par 4 économistes de renom, le Togolais Kako Nabukpo, le Français Bruno Tinel, le Sénégalais Demba Moussa Dembélé et le Camerounais Martial Zebelinga. Au cœur d'une rencontre débat le 16 septembre à Paris, l'ouvrage publié aux éditions de la Dispute sera disponible le 3 octobre.
À présent, notre page sport avec Tatiana Mosso. Ligue des champions en Europe.
La Ligue des champions débute ce mardi à 19h45 GMT sur tous les terrains d'Europe, avec une première journée marquée par le choc entre 2 outsiders qui se cherchent, Paris Saint-Germain et Arsenal, et par l'entrée en lice de l'incontournable Barça contre le Celtic de retour en C1.
Et justement, des précisions sur le PSG.
Et oui, en difficulté dans le jeu et en manque de confiance, le PSG d'Unai Emery est sous pression avant de débuter la Ligue des Champions face à Arsenal et il devra éloigner le spectre de la crise très tôt dans la saison. C'est la première fois depuis qu'il est passé sous pavillon qatari à l'été 2011 que le PSG aborde la compétition reine avec autant de doutes accrochés à ses crampons. Le contexte actuel ne prête pas à l'optimisme pour des Parisiens en difficulté depuis 2 semaines en championnat. Après une défaite franche à Monaco 3-1 et un nul concédé dans les derniers instants vendredi au Parc des Princes face à Saint-Etienne 1-1. Dans les deux cas, le résultat est venu sanctionner un contenu assez famélique en termes d'animation de jeu et d'occasion. Preuve que les joueurs, nouveaux comme anciens, peinent à assimiler la méthode Emery. L'immédiate conséquence est que pour Paris, il n'y a plus vraiment de marge sur ses principaux concurrent en championnat de France et recevoir Arsenal, son rival numéro 1 dans le groupe A, n'est pas vraiment un cadeau, même si une victoire aux dépens d'un tel adversaire viendrait à point nommé redonner quelques certitudes au groupe parisien.
UEFA, la fédération allemande, dénonce la présence de Platini.
Oui, le président de la fédération allemande de football, Reinhard Grindel, a critiqué l'autorisation accordée à Michel Platini par la FIFA d'assister à Athènes au congrès extraordinaire de l'UEFA qui doit désigner le successeur du français à la tête de l'instance européenne. Platini avait été sanctionné par la justice interne de la FIFA dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros de la part de Joseph Blatter, président déchu de la FIFA sur la base d'un simple contrat oral.
Décès de l'ex-international burkinabé Ben Idrissa Dermé en Corse.
Oui, le joueur est décédé d'une crise cardiaque dimanche en plein match de football avec son club amateur de l'association de la jeunesse de Biguglia dans la Haute-Corse lors du 3e tour de la Coupe de France. Le défenseur central avait porté à 4 reprises le maillot de sa sélection nationale et avait évolué au niveau professionnel à Ouagadougou, en Moldavie, au Sheriff Tiraspol et en Corse à l'US Corté et au CA Bastia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nos dossiers du jour. Suite aux violences post-électorales au Gabon qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés, la société civile, par la voix du collectif Tournons la page, demande une enquête internationale. Nathalie Barge a joint à Libreville le coordonnateur de Tournons la page Gabon, Marc Ona Essongui.
La société civile, effectivement, exige une enquête internationale suite aux massacres qui ont été perpétrés par la garde républicaine d'Ali Bongo et les escadrons de la mort dirigés par les proches d'Ali Bongo. Le quartier général du candidat Jean Ping a été attaqué suite au soulèvement qui a suivi l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur qui donnait la victoire à M. Ali Bongo, alors que les Gabonais se sont très bien exprimés le 27 août dernier en sanctionnant Ali Bongo, c'était un vote sanction. La société civile est en train de faire un travail très minutieux d'observation, d'identification et un travail de collecte de données. Nous avons mis en place une base de données où nous recueillons toutes les images, toutes les vidéos, tous les témoignages. Nous avons des parents qui viennent vers nous et qui sont à la recherche de leurs enfants. Beaucoup ont retrouvé leurs parents dans les maisons de pompes funèbres. D'autres sont toujours à la recherche et d'autres ont été emprisonnés. Donc, les chiffres avancés par le gouvernement sont excessivement en deçà de la réalité. Sur toutes les endroits du territoire, nous avoisinons la centaine de morts jusqu'à présent.
Et quant à la répression contre le QG de Jean Ping, est-ce que vous êtes également certain du nombre que vous avancez ?
Le soir même de l'assaut, les informations que nous avons eues, des témoignages, des éléments à l'intérieur du pouvoir et qui nous ont certifié qu'à l'infirmerie de la garde républicaine, 17 corps ont été déposés là-bas. Ces corps ont été déposés. Or, c'est la garde républicaine qui avait lancé l'assaut. À partir de cet instant, tous ces corps ont été déposés dans une morgue Kasebga. Et aujourd'hui, les parents sont en train, effectivement, d'aller retrouver leurs morts à Kasebga. Ça veut tout simplement dire que le nombre de morts soit annoncé par le pouvoir pendant l'assaut, ce nombre n'est pas conforme à la réalité.
Et quelles sont les chaînes de télévision qui ont notamment été saccagées ?
La télévision Nazareth, dont le responsable, le pasteur Ngoussi, et la chaîne privée TV+, qui est une chaîne détenue par les parents de M. André Mbobam, M. André Mbobam. Donc ces deux chaînes de télévision ont été saccagées la même nuit par le même commando.
Et est-ce que le député PDG démissionnaire Bertrand Zibi est toujours détenu à la DGR ?
Le député Bertrand Zibi est toujours détenu à la DGR. Et aujourd'hui, le pouvoir, à travers leur chaîne de télévision, que moi je qualifierais de télévision Mille Collines, sont en train de diffuser des informations et des images qui font état de la découverte d'armes au domicile de M. Zibi. Un fusil retrouvé, un gilet pare-balles et bien d'autres. C'est tellement stupide et ridicule.
Marc Ona Essongui, coordonnateur de Tournons la page Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Syrie, une trêve de 48 heures est entrée en vigueur hier à 16 heures temps universel, alors que l'opposition et la rébellion n'ont pas encore donné leur accord officiel. Énième effort pour mettre un terme à 5 ans d'un conflit dévastateur. Claire Morin-Gibourg a joint Thomas Pierret, auteur de plusieurs ouvrages sur la Syrie, pour lui demander son sentiment sur ce nouveau cessez-le-feu en Syrie.
Beaucoup de scepticisme, pour être honnête, pour deux raisons. La première, c'est que le cessez-le-feu, comme le précédent proclamé en février, ne prévoit pas de mécanisme clair pour faire observer donc le cessez-le-feu par les parties en présence, et particulièrement par le régime syrien, qui, on s'en souvient, en février dernier, n'avait jamais mis en œuvre le cessez-le-feu dans certaines régions. Donc il l'avait observé dans certaines provinces, mais dans d'autres, comme à Damas ou à Latakia, c'était resté lettre morte. Et il n'y avait aucun mécanisme prévu dans cet accord pour le faire respecter. On n'a pas l'impression que les choses soient différentes cette fois-ci, donc c'est une première raison d'être sceptique. La deuxième, c'est dans la conception plus globale de l'accord, alors qu'il n'est pas qu'un accord de cessez-le-feu, puisqu'il est aussi question d'opérations militaires communes russo-américaines, non seulement contre l'État islamique, mais aussi contre le front Fatah al-Sham, ex-front al-Nusra, donc la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui est une des principales factions combattant le régime syrien. Et alors là, on a un problème qui est qu'on demande dans l'accord aux autres groupes rebelles de se retirer des zones où combat le Fatah al-Sham, et avec ce risque qui est que si ces groupes rebelles se séparent de cette organisation, que cette dernière est bombardée par les Américains et les Russes et qu'elle est affaiblie, cela crée un vide qui serait assez certainement rempli par les forces du régime. Donc on demanderait finalement aux rebelles d'abandonner de nouveaux territoires au régime alors que celui-ci est plutôt sur l'offensive actuellement.
Sans oublier la fracassante sortie médiatique de Bachar el-Assad qui dit qu'il veut récupérer la majorité du territoire.
Effectivement, donc évidemment le signe qui est envoyé ici n'est pas très positif. Et encore une fois, il n'y a aucun mécanisme qui soit prévu pour, je dirais, mettre un frein à ses ambitions. Alors, a priori, il semblerait qu'il y ait une clause dans l'accord qui affirme que le régime syrien ne doit pas exploiter l'affaiblissement de Fatah al-Sham pour reprendre des territoires. Le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y ait aucun mécanisme tangible pour empêcher ça. Donc, finalement, la bonne application de l'accord repose, un, sur la bonne volonté russe de limiter les ambitions de leurs alliés syriens. On a quand même le droit d'être extrêmement sceptique par rapport à ça. Et d'autre part, ça pourrait reposer sur des lignes rouges américaines, on en connaît la crédibilité. Et les Américains ne semblent pas décider, à taper du poing sur la table ou à sanctionner le régime syrien en cas de non-observation de l'accord. Donc tout cela fait qu'on peut être extrêmement sceptique par rapport à cet accord de cessez-le-feu.
C'était Thomas Pierret, maître de conférence à l'Université d'Édimbourg et spécialiste de la Syrie. Présidentielle américaine 2016, les démocrates se mobilisent pour rassurer les électeurs quant à l'état de santé de Mme Clinton. Contrairement à son habitude, le républicain Donald Trump a fait preuve d'une grande discipline face à ce dossier concernant Hillary Clinton. Le point avec Timothée Donangmaï.
Suite à l'annonce selon laquelle Mme Clinton souffre d'une pneumonie, la candidate démocrate a pris quelques jours de repos. Elle reprendra sa campagne en milieu de semaine, a fait savoir son équipe qui a promis de publier dans les prochains jours de nouveaux documents médicaux montrant qu'elle ne souffre de rien d'autre que de la pneumonie. Le dossier aurait pu être mieux géré, a reconnu Brian Fallon, porte-parole de Mme Clinton. Réagissant à cette affaire, Tim Kaine, le colistier de la candidate démocrate, a assuré lundi que le niveau d'énergie dont fait montre l'ancienne secrétaire d'État dans cette campagne électorale donne le tournis. Le président Barack Obama reste confiant qu'en dépit de la pneumonie dont elle souffre, Mme Hillary Clinton a la force nécessaire pour assumer les charges de la présidence, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, ajoutant
requirement that the American people have some understanding of the health of their president.
Il est entièrement légitime pour les Américains d'être informés sur la santé de leur président. Madame Clinton aurait dû écouter les médecins et se reposer après avoir été informée la semaine dernière de sa maladie, a dit de son côté le vice-président américain Joe Biden en campagne pour l'ancienne secrétaire d'État. C'est une femme d'une grande endurance, a-t-il ajouté.
Le candidat républicain Donald Trump, lui, s'est bien gardé d'attaquer Mme Clinton concernant sa santé, préférant se concentrer sur les propos controversés tenus la semaine dernière par la candidate démocrate Timothée.
Mme Hillary Clinton avait qualifié vendredi la moitié des partisans de Donald Trump de pitoyables, de racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Lors d'une halte électorale lundi à Baltimore, dans l'État du Maryland, le candidat républicain a dit être profondément choqué d'entendre son adversaire attaquer, calomnier et dénigrer ses partisans.
I was thus deeply shocked and alarmed this Friday to hear my opponent attack, slander, smear, demean these wonderful, amazing people.
Il a accusé Mme Clinton de railler et de mépriser les Américains qui travaillent dur. La décision du candidat républicain de se concentrer sur cette controverse plutôt que sur le problème de santé de Mme Clinton montre, selon les analystes, qu'après plus d'une année de campagne en roue libre, l'équipe Trump est en train d'amener son candidat à plus de discipline. Autre preuve de cette discipline fraîchement acquise, dimanche, le camp de Trump s'est imposé une journée de silence, sans interview ou commentaire, pour marquer l'anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001, ici aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À l'instar de nombreux autres musulmans dans le monde, les fidèles de Gao au Mali sont sortis massivement hier pour célébrer l'Aïd al-Adha, ou Tabaski comme on dit en Afrique de l'Ouest, et ce, sous l'œil vigilant des forces de sécurité. À cause de l'insécurité, cette année, les vendeurs de moutons de la région ont été contraints de rester à Gao pour vendre leurs ovins. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
C'est à la place publique Giganchor et sous l'œil vigilant des forces de sécurité maliennes que l'imam de Djoulabougou a dirigé la prière devant des milliers de fidèles. Vieux Baba Touré que nous avons rencontré à la place a prié pour son pays.
Je suis venu chercher des bénédictions et souhaiter à ce qu'il puisse avoir une réconciliation au niveau de tous les fils du Mali et qu'on se pardonne. Parce que si ça continue, ça ne nous arrange pas tous. Donc on souhaite que Dieu nous accorde la paix. Bon, les moutons ne sont pas très chers. Mais c'est l'argent qui manque, il n'y a pas d'argent.
Alassane Ibrahim a passé des jours sans pouvoir se payer le mouton de fête. Ce matin encore, il se retrouve au marché, il trouve que les animaux sont chers.
C'est trop vraiment, les prix sont costauds, wallahi. C'est l'argent seulement. Le dernier jour là, les animaux comme ça, là, un animal par an, on te dit 50 000, où est-ce qu'on va hein? C'est trop cher même pour les gens d'ici, parce qu'on n'a pas fini la crise. Il n'y a pas d'activité, comment les gens vont gagner de l'argent pour pouvoir payer? La crise n'est pas finie jusqu'à présent.
À cause de l'insécurité grandissante dans les régions du Nord, les vendeurs de bétail ne peuvent plus se déplacer ni à Ayerou au Niger ni à Bamako. Mohamed Yattara, vendeur de moutons.
Avant, nous amenons les animaux vers Ayerou au Niger ou vers Bamako pour les vendre. Mais cette année, ça n'a pas été possible à cause de l'insécurité. Les bandits nous croisent en route, ils nous retirent notre argent et souvent nos animaux. Les animaux, nous les payons cher et surtout nous les gardons des fois plus d'une année. Il faut leur payer du bon goût et de l'aliment en bétail. On ne peut pas les vendre à vil prix.
Le vieux Meiga à la retraite a dépensé toutes ses économies pour la fête du sacrifice du mouton. Pour la rentrée des classes prévue pour le 3 octobre prochain, en bon croyant, il se confie à Dieu.
Quand on a la bonne foi, des fois tu ne peux pas essayer de voir la sérénité de l'animal. Mais c'est ta foi que tu regardes. Donc tu es obligé de mettre tout ce que tu peux mettre pour faire cette fête-là. C'est une fois de l'année. Donc si tu essayes de voir ton argent et le mouton, mais tu vas rien faire.
Il y a la rentrée des classes, c'est pour bientôt. Et comment vous préparez cela?
Oui, la rentrée, c'est-à-dire c'est trois choses qui se suivent. Il y a la rentrée, il y a la fête, il y a Tabaski. Bon, tout ça là, c'est la foi. Ça, on a vu la fin. On est pour la rentrée maintenant, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Mais Dieu est là.
Soirée, comment vous dites bonne fête?
Ah, ok, ici. Ok, ici, voilà. Il commune la chérèse.
Kao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
En direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Cédunia à Washington.